une chose que vous oubliez, je vois les questions. C'est une question évidemment très importante qu'on a soulevée. Difficile, très importante. Alors, n'oublions pas que si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne le trouverez pas. Et je vous cite toujours cet exemple. Hein. Ce philosophe ancien qui en plus de ça faisait de la politique. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il était conscient, qu'il était philosophe. Il était avec son épouse. Il l'aimait. Il a des petits-enfants qu'il aime. Je savais tout ça. Et il me dit, avec Kant, je ne trouve pas Dieu. Alors je lui dis, mais est-ce que Kant, le système de Kant, vous permet de trouver Dieu? Si Dieu existe, vous voyez, c'est comme ça que saint Thomas a commencé. Le DNT est essentia. Saint Thomas avait 23 ans, je crois, quand il a écrit DNT est essentia. Alors, c'est de dire, si Dieu existe, j'ai le droit de mettre une hypothèse, hein. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Dire, Dieu n'existe pas, mais vous n'avez pas pensé à ce que vous voulez dire. Il faut d'abord se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que pour vous Dieu? Ça c'est dans l'intelligence humaine. Je recherche la vérité. Et la vérité première, c'est de savoir si Dieu existe. Et je suis convaincu que c'est la vérité première. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous chercherez indéfiniment Dieu, vous ne le trouverez jamais, puisque Dieu, s'il existe, c'est l'être premier. Et ça, tout le monde peut penser ça. Vous avez ou des gens qui s'intéressent à ça, ou des gens qui ne s'intéressent pas. On dit, oh, moi, ça ne m'intéresse pas. Très bien, mais alors taisez-vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous poser la question, est-ce que Dieu existe ? Si Dieu existe, il ne peut être que l'être premier. Oui. C'est une manière de montrer qu'au fond, si l'intelligence n'est pas en quête de Dieu, elle ne trouvera jamais. Donc, première question qu'il faut toujours poser, est-ce que vraiment vous cherchez Dieu? Alors, ce Kantien, il me dit, oui, je cherche Dieu, parce que s'il existe, quand même, tout est changé. S'il n'existe pas, ben, il n'y a plus de recherche intellectuelle. Mais si on cherche, alors, je lui dis, vous prenez comme piste Kant, et vous ne trouverez jamais avec Kant. Vous êtes ici avec votre épouse, je sais que vous l'aimez, je sais que vous avez des petits-enfants que vous aimez, mais posez la question de Dieu à partir de l'amour. Alors, il ouvrait des grands yeux. On ne m'a jamais dit qu'il fallait chercher Dieu à partir de l'amour. Mais oui, parce que vous ne connaissez pas bien saint Thomas. Saint Thomas dit qu'il faut chercher Dieu à partir de l'amour. Et pas à partir des idées. Parce que vous n'avez pas l'idée de Dieu. Ça n'existe pas, l'idée de Dieu. Si vous prétendez avoir l'idée de Dieu, ce n'est pas Dieu. Vous n'avez pas une idée de Dieu. Et non. Dieu, vous découvrez comme l'absolu. Et danger de mort. L'absolu. Arrêtez. Et vous savez que si Dieu existe, il ne peut exister que comme l'amour. Il ne peut pas exister autrement. Il ne serait pas Dieu. Ça, vous pouvez le dire à tout être intelligent. Vous pouvez dire ça. Vous voyez, c'est le préambule. Il est nécessaire. Il y a cette recherche. S'il n'y a pas cette recherche, la mort de l'ami, c'est la mort de l'ami. On emporte le deuil. On ne cherche pas plus. Si vous cherchez Dieu, ah, c'est différent. Vous voyez que la mort de l'ami, ah, attention, la mort de l'ami, l'amour demeure malgré mon ami. Tiens, l'amour ne meurt pas. Tiens, oui, l'amour ne meurt pas. Et que vous avez cette preuve que l'amour ne meurt pas, c'est quand l'ami est mort, son amour reste encore en vous. Ah, tiens, oui. Alors, d'où ça vient, ça? Oui, s'il n'y a pas ce préambule de recherche, Dieu, avant de le trouver, il faut le chercher. Il faut que notre intelligence soit en appétit de recherche. C'est très important, ça. Si mon intelligence n'est pas en appétit de recherche, vous ne le trouverez jamais. Et quand vous avez perdu quelque chose, si vous ne cherchez pas ce quelque chose, vous ne le trouverez pas. Par hasard, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut chercher Dieu? Première question. Est-ce qu'on peut chercher Dieu? Alors, si Dieu existe, il est nécessaire de le chercher. Parce que tout dépend de lui, s'il existe. Donc, mon intelligence ne s'ouvrira à la vérité qu'en le découvrant. Et elle le découvre par l'amour. Alors, il y a encore ici des tas de questions. J'ai envie de m'arrêter là, parce que ce n'est pas directement la question du cours, vous voyez. C'est une question très importante. La question fondamentale auquel on revient toujours là-dessus. Alors, dès qu'on peut s'approcher, il faut... Alors, penser que si vous cherchez Dieu, et d'abord... Qu'est-ce que ça veut dire, chercher? Est-ce que Dieu existe? Dieu, ça signifie quelque chose dans le langage courant. Qu'est-ce que signifie Dieu? Dieu signifie l'être premier. Signifie le créateur. Alors, il peut y avoir plusieurs dieux, oui, plusieurs. Parce que Dieu possède l'être divin, un être infaillible, un être éternel. Donc, si Dieu existe, dans toute vérité, Dieu est présent. Si Dieu existe, il existe comme amour. Tout amour parle de Dieu. C'est ça les transcendentaux. Tout amour parle de Dieu. Alors il y a bien un amour qui parle plus de Dieu que les autres. Ah oui, c'est l'amour d'amitié, puisque c'est le premier dont j'ai conscience. L'amour d'amitié est une richesse extraordinaire. L'amour d'amitié montre que l'amour existe par lui-même. L'amour existe par lui-même. Si l'amour existe par lui-même, l'ami n'est pas source d'amour. Il y a quelqu'un d'autre. Puisque l'amour existe. Et que moi, je ne suis pas l'auteur de l'amour. Si j'étais l'auteur de l'amour, mon ami ne mourrait jamais. Si l'amour dépendait de moi, l'existence de moi, l'amour de mon ami n'existerait jamais. Parce que je ne veux pas la mort de mon ami. Et il meurt. Donc, l'existence de l'amour m'échappe. Si l'existence de l'amour m'échappe, mais il dépend de quelqu'un d'autre. De qui dépend-il ? De l'amour. Voilà. C'est l'amour qui par lui-même existe, oui. Et évidemment, quand l'amour est trop limité, il n'existe pas. Il n'existe plus. Il est trop fragile. Et... Alors, c'est très bien, je vois ces questions. Je n'y réponds pas à cause de ça, j'y réponds de cette manière, vous voyez. C'est qu'il manque dans toutes ces questions la recherche du premier. Existe-t-il un Dieu ? Le DNT, ce n'est pas commode à comprendre le DNT, certainement, mais il faut l'avoir lu. Pas, ne le lisez pas en première année, vous n'y comprendrez rien. Lisez-le en seconde année. C'est un petit livre extrêmement précieux. Des philosophes comme Gilson disent « C'est ce qu'il y a de plus précieux dans tout saint Thomas. » C'est vrai que c'est ce qu'il y a de proprement philosophique de Thomas d'Aquin. Il se pose tout de suite la question, Dieu existe-t-il ? Ça, c'est la question du philosophe, Dieu existe-t-il ? Parce que si Dieu n'existe pas, pas la peine de faire de la philosophie. Inutile. Ah, si Dieu existe, oh, alors oui. C'est très important, puisque ça me montre la voie pour atteindre Dieu. Et c'est toute ma vie humaine qui est en cause, savoir si Dieu est ou s'il n'y a pas de Dieu. Et ce n'est pas moi qui commande, j'essaie de comprendre la réalité. Alors, la réalité, ce qui est, implique l'existence de Dieu. Dans le jugement d'existence, ceci est, ça implique l'existence de Dieu. L'amour, parmi les réalités que je connais, c'est la réalité la plus parfaite. Oh. Alors, c'est donc la réalité qui est le plus proche de Dieu. Si on me disait, en montant sur une haute montagne, le Mont Blanc, je découvrirais le soleil qui se lève, et ça me ferait penser à Dieu qui se lève. J'irais tout de suite, hein, parce qu'il y aurait une expérience majeure. Dans ma vie, il y a une expérience majeure. L'amitié. Expérience majeure. Donc cette expérience majeure doit me permettre de découvrir l'existence de l'être premier. Et c'est ça qui... Vous voyez, ça ne me fait pas encore, mais ça doit, puisque c'est l'expérience majeure. Par l'amitié, je touche, parmi les réalités existantes, ce qu'il y a de plus précieux, la personne humaine. Ce qui est le plus précieux. Parmi tous les troupeaux de moutons, ce qui est le plus précieux, c'est l'existence du berger. C'est bien évident. Si je suis convaincu que l'expérience la plus parfaite, c'est l'amour d'amitié, je dois donc me pencher sur cette expérience pour voir à quel moment cette expérience me dévoile l'existence de Dieu. L'amour existe au-delà de la mort de mon ami. L'amour n'est pas terminé avec la mort de mon ami. L'amour existe au-delà de la mort de mon ami. Alors où est-ce qu'il existe ? Pour moi, puisque tout mon amour était pour mon ami, il n'est pas pour moi. Ah, il reste toujours pour moi. Il est toujours là présent. Bon. Passons maintenant au sujet fondamental, c'est-à-dire ce que nous essayons de découvrir, c'est ce qu'est la personne. Alors, je vous ai dit, la personne n'est pas un principe, c'est une manière d'exister, c'est une manière d'aimer. C'est une manière d'aimer, c'est une manière d'exister. Il y a des gens qui existent, malheureusement, comme des animaux, et non pas comme des personnes humaines. Vous-même, existez-vous comme une personne humaine ? Oui. J'ai choisi l'orientation de ma vie. Ça, c'est capital. J'ai choisi l'orientation de ma vie. Et c'est pour ça qu'on a vu qu'une personne humaine implique nécessairement l'autonomie, l'intelligence, la volonté, mais elle implique aussi, parce que la personne, elle existe, la personne, elle est concrète en moi, je suis une personne. Alors, il y a quelque chose en moi qui me fait découvrir toutes mes activités concrètes. C'est la prudence. Si on n'est pas prudent, on ne peut pas être une vraie personne humaine. Parmi les vertus, toutes les vertus, celle qui demeure quand je regarde la personne humaine, c'est la prudence. C'est pour ça que les anciens disaient la prudence, c'est comme une petite sagesse. et la prudence est bien comme une petite sagesse, parce qu'elle organise tout mon pouvoir d'action, tout mon pouvoir de lutte. C'est ma prudence qui me permet de faire ça. La prudence, c'est la vertu pratique sur mon orientation de vie. Je suis prudent lorsque j'ai choisi l'orientation de ma vie. Tant que je n'ai pas choisi l'orientation de ma vie, la prudence n'est pas très développée en moi. Je pourrais faire des autres choses. Je pourrais prendre comme métier d'être clown. C'est un métier qui me ravit d'être clown. Et le clown, il organise sa vie en clown. Tout est pour ça. Il y avait le cirque CNI qui passait régulièrement en Suisse. Et alors, mes étudiants venaient toujours me dire « Venez, venez avec nous, parce que vous ferez un cours sur le cirque. » Alors, c'était toujours le clown qui m'intéressait. Il y avait un clown qui était là pour chercher ce que c'était la lumière. C'était un clown, c'était pas un philosophe. Il avait une possibilité de capter la lumière. Il cherchait, vous voyez, au fond, à définir la lumière, la posséder. Est-ce qu'on possède la lumière ou est-ce qu'on la reçoit? Alors c'était très curieux. Enfin, le philosophe, lui, distingue la différence entre recevoir quelque chose, on reçoit la lumière. Et puis, posséder, c'est pas la même chose. Posséder, ça vient de moi. Alors, le clown montrait qu'on ne pouvait pas posséder la lumière. Ça, il pouvait le montrer. Quand il s'agissait de définir ce que c'est que la lumière, alors ça, c'était beaucoup plus difficile. La définition de la lumière. Et c'est intéressant d'aller au cirque pour découvrir la définition de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Ce clown était un très grand clown. Pendant une demi-heure, il vous tenait en suspens pour la recherche de la lumière. Un cours sur la lumière. À la manière d'un clown. Ça, il fallait c'est ce qui me permet d'orienter ma vie. Si je suis prudent, je détermine quelle est ma finalité. Quelle est la finalité? Quelle est ma finalité d'homme? Une finalité qui me permettra d'être parfaitement homme. C'est-à-dire de réaliser ce qui est le propre de l'homme dans ses diverses activités. La prudence a donc cette possibilité de connaître d'une façon pratique ce qui me permet d'être heureux, d'être parfaitement homme, d'atteindre les vérités essentielles qui sont nécessaires pour être parfaitement homme. La prudence, c'est organiser tous les pouvoirs que j'ai. Pouvoir intellectuel, pouvoir volontaire, pouvoir physique. Je suis un petit monde, et ça, les anciens aimaient voir. La prudence regarde ce petit monde pour l'organiser, pour lui permettre d'être le plus efficace possible. La prudence me permet de prendre des sentiers qui me conduiront au bonheur. Alors que l'homme imprudent peut prendre des sentiers qui ne conduiront jamais au bonheur. C'est un discernement très grand, celui-là. Et au fond, la personne humaine, c'est quelqu'un qui réussit bien. Toutes ses richesses sont développées par sa prudence. C'est quelque chose de très important, la prudence. Vu de cette manière-là, c'est la vertu des vertus. La prudence me permet d'être parfaitement fort, d'être parfaitement généreux, de savoir se donner totalement à ce qui en vaut la peine, et ne pas se donner à quelque chose qui ne peut pas m'apporter le véritable joie, le véritable bonheur. La prudence, c'est pas du tout ce que la plupart du temps on regarde la prudence. Être prudent, c'est-à-dire ne s'engager que pour des réalités dont on est à peu près sûr de réussir. C'est pas un homme prudent, ça. C'est un homme qui cherche la réussite. Chercher la réussite, c'est pas la personne humaine. La personne humaine, s'il n'y a pas un dépassement de ce que je suis capable de faire, s'il n'y a pas ce dépassement qui me permet d'atteindre ma fin, je ne suis pas vraiment prudent. Je ne suis pas vraiment une personne humaine. Donc la personne humaine consiste à découvrir ce pourquoi je suis fait. La finalité. Découvrir la vraie finalité. Ce pourquoi je suis fait. Et de tout orienter vers ce pouvoir. C'est donc quelque chose qui maintient en moi l'unité. Un homme prudent maintient l'unité de sa vie, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, ce qui est dangereux pour lui. Et l'homme prudent connaît et évalue exactement ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est incapable de faire, il le laisse tomber. Il ne s'engage jamais dans une fausse piste. S'engager dans des fausses pistes, vous savez, quand on voyage la nuit, qu'on ne voit pas les orientations, on s'en aperçoit que quelques kilomètres après, on a perdu du temps. S'engager dans des fausses pistes, croyant que c'est une bonne piste, c'est une piste qui nous permettra d'atteindre notre fin. L'homme prudent, c'est celui qui a déterminé quelle était sa fin. Concrètement. Et l'homme prudent sait très bien qu'il y a deux finalités pour l'homme. La finalité de l'amitié, la finalité de la contemplation. Il sait qu'il y a en lui ces deux possibilités. La vie active, l'amitié, la vie contemplative. Chercher la vérité. Et que ces deux vérités, qui sont comme deux fins pour l'homme, il doit essayer de les acquérir. On devient l'ami. On devient un contemplatif. La vérité. Tout le reste ne développe pas en nous la personne. C'est terrible. C'est vrai, celui qui ne sait pas où il va ne connaît pas le développement, ne connaît pas l'amitié. Celui qui ne recherche pas la vérité ne recherche pas ce qui pourra lui donner le bonheur. L'homme prudent, c'est l'homme qui a opté pour une véritable finalité, l'amitié, la contemplation. Et ayant opté pour l'une ou l'autre de ces fins, ou les deux, il a acquis certaines valeurs, une certaine personnalité qui éclaire ce qu'est l'homme et comment organiser sa vie. Donc, la prudence joue un rôle capital pour le point de vue de la personne. Ça ne définit pas la personne. La personne humaine, pour être une véritable personne humaine, doit aimer la vérité, doit rechercher la vérité, au-delà de la prudence. Au-delà de la prudence. Parce que certaines vérités, je ne peux pas les acquérir et les posséder, mais elles peuvent m'aider à être contemplatif. L'homme prudent saura très bien discerner ces deux dons. Le domaine de l'acquisition, on acquiert, on s'enrichit, et le domaine de la contemplation. Il aura opté. Et il pourra, au point de vue chrétien, opter pour la contemplation apostolique. Mais au point de vue philosophique, c'est l'un ou l'autre, c'est la recherche de la vérité ou l'amitié. C'est les deux finalités. C'est très, très important de voir ça. Qu'il y a un partage qui se fait. Et chacun de ces partages a sa finalité. Autre chose, d'aimer l'ami, autre chose, la contemplation, la recherche de la vérité, la recherche de toute vérité. Est-ce que la recherche mathématique forme une personne? Alors là, c'est une question très importante pour nous aujourd'hui. Quand je dis que la recherche de la vérité est partie essentielle d'une personne, et l'amitié, est-ce que la recherche des mathématiques permet d'être une personne, un savant très fort en mathématiques, a une personnalité très particulière? Est-ce qu'il est une personne? On verra ça la fois prochaine.